Eh bien, on y va. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents cet après-midi pour la dernière demi-journée du Festival Raison d'Agir. On va commencer donc avec une présentation des étudiants de lettres de l'Université de Poitiers. Alors, je veux juste resituer un petit peu le projet. Les anciens de Raison d'Agir savent qu'on avait déjà mené ce genre de projet en 2011, 2012, 2013, donc sur la mondialisation, sur la démocratie, puis on avait commencé sur les discours sur l'école, même si on n'avait pas pu terminer pour d'autres raisons. L'idée, c'est, et peut-être que c'est intéressant par rapport aux questions qu'on se posait sur la présence des étudiants de sociologie, l'idée, c'est de faire participer les étudiants dans le cadre de leurs cours. Donc, il faut savoir que les étudiants que vous allez voir là ont travaillé sur Guy Debord, sur la société du spectacle, dans le cadre de leur cours d'analyse de discours. Donc, avec trois enseignants, moi un tout petit peu pour présenter le festival et puis les coacher un tout petit peu sur la présentation. Et puis, Stéphane Bicchialo et Julien Rowe qui sont là tous les deux et qui ont organisé la partie théorique sur le travail de Debord. Voilà, merci beaucoup à tous, merci en particulier aux étudiants de L2C là, qui sont venus soutenir leurs copains et leurs copines. Et puis, c'est pas L2C, LM, pardon, de Lettres Modernes. Bonne présentation à tous, bon spectacle. Et puis, il y aura un temps pour discuter un petit peu. Alors, vous verrez, on aura l'occasion d'en discuter dans le débat et ils vont même en parler. Ils ont mis un petit peu ça en abîme dans leur présentation. C'était pas évident pour les étudiants de travailler sur Guy Debord, pas plus que pour même les plus vieux d'entre nous d'assister à la projection de la société du spectacle hier soir. Voilà, on va voir ce qu'ils en ont sorti et puis on pourra en discuter avec eux après. Merci à tous.
Poussant la romance à toute heure du jour ou de la nuit, pourquoi se payer d'intermittent, professionnel de surcroît, quand tout le monde est artiste de variété de sa propre petite existence? Bah, tout le monde, le président, le premier ministre de la culture, de l'éducation, de la police, de la justice, de la recherche, des prisons, des transports, de l'écologie, de l'économie, du commerce extérieur, des journalistes de la télé, des présentateurs, des jeux du cirque en offre, des jeunes pousses qui s'y croient, des stars académiques, des pop starés, des Sarkozy, des guerres cybernétiques où on ne voit jamais les morts, des monsieur et madame tout le monde en main de haine, ou de mal en pire, et j'en passe.
Tous font du spectacle, du grand spectacle. Et quel spectacle ils nous font? Celui des prix de l'intermittence, du casting téléachat, du solde de l'artiste de zoo, du zapping?
Da 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 365 000 vues sur Internet l'an dernier, Nicolas a pris goût à la célébrité. Sa notoriété est pour lui une évidence, même si pour l'instant il doit l'expliquer à ses futurs fans.
Je suis un petit peu, c'est un personnage de riche, voilà, j'essaie de faire de la musique, quelque chose de concret, et beaucoup de buzz à côté.
Maurice, l'oncle de Pauline, vient tout juste de lâcher son père commun dans un nouveau pâturage, plein d'herbes fraîches et épaisses. Un vrai régal pour ces animaux qui sont d'infatigables dévoreurs de plantes. En quelques minutes, chacun d'eux a trouvé l'endroit où elle est la plus épaisse, la plus parfumée et se remplit la panse sans compter.
Économique et théâtral, personne ne se sent chez lui nulle part.
Une ou plusieurs personnes se livrant à la dérive renoncent, pour une durée plus ou moins longue, aux raisons de se déplacer et d'agir qu'elles se connaissent généralement, aux relations, aux travaux et aux loisirs qui leur sont propres, pour se laisser aller aux sollicitations du terrain et des rencontres qui y correspondent. Le hasard joue dans la dérive d'un rôle important puisque l'observation psychogéographique est encore peu assurée. Et c'est une insuffisante défiance à l'égard du hasard et de son emploi idéologique toujours réactionnaire qui condamnait à un échec morne la célèbre déambulation sans but tentée en 1923 par quatre surréalistes à partir d'une ville tirée au sort. L'errance en rase campagne est évidemment déprimante et les interventions du hasard y sont plus pauvres que jamais. Aux antipodes de cette aberration, le caractère principalement urbain de la dérive, au contact des centres de possibilités et de signification que sont les grandes villes transformées par l'industrie, répondrait plutôt à la phrase de Marx « Les hommes ne peuvent rien voir autour d'eux qui ne soit leur visage, tout parle d'eux-mêmes, leur paysage même est animé. »
Thank you. de sécurité. Il protège et répare le consommateur contre tout produit, processus de production ou service pouvant menacer sa vie, sa santé ou son équilibre minceur ou financier.
Droit à l'information.
Continue.
Le consommateur doit pouvoir disposer des éléments qui lui permettent de faire un choix en connaissance de cause et être protégé de toute information trompeuse ou biaisée.
Droit au choix. Il donne accès au consommateur à une variété de produits,
frais de garantie de la mer à votre assiette,
et services correspondant à ses besoins à des prix,
bah c'est géant,
compétitifs. Lorsque la concurrence ne joue pas, ce droit lui garantit une
high
qualité satisfaisante à des prix justes.
Droit d'être entendu. Ce droit permet aux consommateurs d'être représentés au niveau où se prennent les décisions afin que ses intérêts,
bien-être,
soient pris en considération.
Droit à l'éducation. C'est la possibilité pour le consommateur d'acquérir les connaissances et les techniques lui permettant d'être un consommateur averti.
Droit à la réparation des torts. Il garantit
2 ans, voire information et règlement,
au consommateur un règlement équitable de ses problèmes impliquant la réparation des dommages subis et au besoin une aide judiciaire gratuite
et frais de livraison inclus
ou tout autre système adapté à des petits litiges.
Droit à un environnement sain. L'environnement physique doit être
mieux chaque jour
et sauvegardé en favorisant la qualité de la vie pour les générations présentes et futures.
Parce que le monde bouge. Droit à la satisfaction des besoins de base. Aujourd'hui, ce droit peut être considéré comme acquis dans des pays développés, mais ailleurs, il y a encore une utopie. Accès à l'eau potable,
pour le goût des choses simples,
à un logement, ainsi que l'accès aux soins. Tout ceci semble aller de soi dans des pays riches, mais reste à faire dans les pays émergents.
Les devoirs des consommateurs.
Il en faut de l'énergie.
Pour les droits énoncés ci-dessus, qui impliquent des devoirs et des responsabilités pour le consommateur, il est important que celui-ci soit
averti,
prêt à s'informer,
priorité au direct,
pour mieux connaître les biens et services qu'il utilise.
Actif,
décide à se défendre lorsque sa cause est honnête et juste,
socialement responsable, conscient de l'influence que son comportement peut avoir sur la population, en particulier à l'égard des personnes les plus défavorisées, tant sur le plan local que national ou international,
tous unis contre la vie chère.
Écologiquement responsable,
sensible que sa consommation
d'alcool est dangereuse pour sa santé
et peut avoir des effets sur l'environnement en veillant notamment au gaspillage des ressources naturelles et à la pollution.
Solidaire, convaincu que c'est dans l'union avec d'autres consommateurs qu'il aura la force, l'influence de promouvoir les intérêts de tous.
Et tellement plus encore.
Le consommateur réel devient consommateur d'illusion. La marchandise est cette illusion effectivement réelle et le spectacle sa manifestation générale.
On peut dériver seul, mais tout indique que la répartition numérique la plus fructueuse consiste en plusieurs petits groupes de 2 ou 3 personnes parvenues à une même prise de conscience, le regroupement des impressions de ces différents groupes devant permettre d'aboutir à des conclusions objectives. Il est souhaitable que la composition de ces groupes change d'une dérive à l'autre. Au-dessus de 4 ou de 5 participants, le caractère propre à la dérive décroît rapidement. Et en tout cas, il est impossible de dépasser la dizaine sans que la dérive ne se fragmente en plusieurs dérives menées simultanément. La pratique de ce dernier mouvement est d'ailleurs d'un grand intérêt, mais les difficultés qu'il entraîne n'ont pas permis jusqu'à présent de l'organiser avec l'ampleur désirable. La durée moyenne d'une dérive est la journée, considérée comme l'intervalle de temps compris entre 2 périodes de sommeil. Les points de départ et d'arrivée dans le temps par rapport à la journée solaire sont différents, mais il faut noter cependant que les dernières heures de la nuit sont généralement impropres à la dérive.
De l'art pour mener une action révolutionnaire. Le projet politique de Guy Debord est étroitement lié à une redéfinition de la culture. Ces textes m'ont permis de poser des mots sur ma propre considération de la société et sur la condition de l'individu à l'ère du capitalisme. En tant qu'artiste, ces questions sont centrales. Après tout, que fait l'art si ce n'est représenter le monde? Prenons ces toiles, par exemple. L'une de mes dernières compositions, New York. Tout le monde ici connaît New York?
Oui.
Qui d'entre vous est déjà allé à New York? Très peu, c'est bien ce que je pensais. Mais combien d'entre vous possèdent ce genre d'affiches, de tableaux, de toiles, ou bien d'objets reprenant une vue panoramique des monuments de la grande ville? Vous vous rendez compte? Seulement quelques personnes sont déjà allées à New York, pourtant, vous êtes tous assurés de connaître cette ville. Vous connaissez cette ville parce que vous avez en tête ce genre d'images présentées sur des objets de votre quotidien vous permettant de vous figurer un espace lointain et étranger. Mais pour la majorité, vous n'avez jamais éprouvé réellement la grande ville. Vous ne vous êtes jamais imprégné de son ambiance, perdu dans ses rues. Et pourtant, vous dites la connaître. Savez-vous ce que c'est seulement que de connaître quelque chose au sens d'expérience vécue? That's the problem. Problème que Guy Debord a su percevoir dans notre rapport aux images et à l'expérience dans cette société du spectacle. Que c'est volontiers l'art industrialisé, à l'image de ces toiles totalement impersonnelles, fabriquées en série et que l'on retrouve dans tous les supermarchés et magasins d'immeubles. La marchandise règne sur l'ensemble de notre société et par là vient occuper la vie sociale et culturelle. Yeah, that's definitely the problem. Ces toiles nous donnent à voir des images figées que nous achetons pour vivre, dans une contemplation passive en voyage à New York. Nos images nous permettent de vivre par procuration, depuis notre salon, l'expérience d'une grande ville comme celle-ci. Aujourd'hui, l'art est bel et bien le cœur et l'irréalisme de la société réelle et ne fait qu'entretenir notre aliénation face au spectacle qui envahit et inverse le réel, la réalité au point d'être considérée elle-même comme la réalité. Le spectateur est plongé maintenu dans un sommeil contemplatif. Il consomme l'art de manière passive. Or, il absorbe tel de l'opium, visant à endormir ces images que masquent comme des écrans la réalité, la souffrance et la misère dans laquelle il se trouve. Il ne réfléchit plus à son propre destin. Le spectateur a perdu tout pouvoir sur l'emploi de sa vie. Et c'est là que j'ai voulu intervenir. Pour moi, la beauté, quand elle n'est pas une promesse de bonheur, doit être détruite. C'est pour cela que j'ai ici souhaité reprendre de ces toiles, symbole du triomphe du capitalisme, dans l'art pour les détourner selon la méthode des situationnistes, en les ponctuant avec des fragments de texte de Guy Debord, processus de deconstruction, que l'on retrouvait dans le travail d'Asser John, par exemple. Mais ce qui m'importe, c'est que vous saisissiez, c'est qu'avec ces phrases qui viennent parasiter la toile, je lutte contre l'endormissement du spectateur, puisque je le sors de sa condition de consommateur passif. Je le pousse, au contraire, à réfléchir là où son esprit critique devait s'éteindre. J'annule le processus d'alienation capitaliste et fais de l'instinct de contemplation une situation, une expérience. La beauté nouvelle sera de situation, c'est-à-dire provisoire et vécue. So, notez tout de même que je souhaite, durant la vente, rester anonymous. Comme vous avez pu le voir, je ne signe pas mes œuvres. D'ailleurs, elles ne m'appartiennent pas véritablement. Je suis pour l'effacement de l'artiste. D'ailleurs, son œuvre, c'est le message et l'efficacité de ses toiles qui comptent. Si je souhaite remettre ses travaux à d'autres, c'est dans l'espoir qu'ils seront maintes fois refaits, déclinés sous de multiples formes. Il faut en finir avec la culte bourgeois de l'œuvre originale.
Bien, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, on va passer à la vente aux enchères. Alors, aujourd'hui, nous mettons en vente la fameuse série de la mystérieuse artiste W.R. C'est une artiste contemporaine diplômée du Maryland Institute College of Art, où elle a connu le grand Jeff Koons, que vous connaissez sûrement tous ici très bien, et qui a d'ailleurs fait d'elle sa protégée. Spécialiste du détournement, elle perpétue à travers son art la lutte de Guy Debord. Sa série intitulée « Au debord du monde » comprend trois tableaux que nous allons vous présenter tout de suite. Alors, voici le premier lot. Le tableau « La marchandise » se contemple elle-même dans un monde qu'elle a créé. Alors, il mesure 90 cm sur 50. C'est une impression sur toile recouverte d'une inscription à l'acrylique jaune. Cette toile est la préférée de M. Bernard Arnault, le grand chef d'entreprise que vous connaissez bien. Après sa rencontre avec WR, il a d'ailleurs décidé d'exposer toute son œuvre à la fondation LVMH à Paris, dont il est l'heureux propriétaire. Cette exposition est malheureusement pour vous terminée, mais sachez qu'elle a rencontré un franc succès. Pour cette œuvre, prix de départ, 300 000 euros. Bon allez, mesdames et messieurs, je sais que c'est un peu cher, mais vous savez que c'est défiscalisé. L'art aujourd'hui, c'est un très très bon investissement. Ah, 300 000 euros ici, 400 000, 500 000 ici, qui dit mieux? 600 000, 700 000,
1 million.
1 million. 1 million une fois. 1 million deux fois. 1 million trois fois. Adjugé pour 1 million. On passe au tableau suivant, si vous le voulez bien. Alors, voici le deuxième lot. C'est un tableau intitulé Fiac You. C'est également une impression sur toile recouverte d'une inscription à l'acrylique rouge. Qui mesure également 90 cm sur 50. Avec cette œuvre, l'artiste révolutionne tous les codes esthétiques. Elle dit d'ailleurs elle-même, en citant Debord, qu'elle souhaite réinventer la beauté. Ce tableau, c'est la négation même de l'art. Et puis même au-delà de ça, ce slogan, vous voyez, quelle efficacité. Je suis sûre qu'il résonne dans tous vos esprits engagés. En plus de ça, ces couleurs seraient parfaites pour un intérieur cosy et chaleureux et permettraient à vous et vos amis d'égayer et d'éveiller vos débats. Prix de départ, 300 000 euros. Alors, 300 000 euros pour le monsieur au milieu. 400 000 euros. 2 millions. 2 millions qui dit mieux. 2 millions une. 3 millions.
3 millions.
6 millions, très bien. 6 millions une fois, deux fois, trois fois. Adjugé pour 6 millions. Troisième et dernier lot. Alors, il s'intitule « La marchandise est parvenue à l'occupation totale de la vie sociale ». C'est une phrase qui est directement empruntée à la Société du spectacle de Guy Debord. C'est toujours une impression sur toile, aux mêmes dimensions, avec une inscription à l'acrylique de couleur blanche. Mesdames et messieurs, cette toile est certainement la plus subversive de la série. L'acheter sera le signe de votre engagement. Je pense qu'elle parle d'elle-même, n'est-ce pas ? N'hésitez pas à enchérir, parce que c'est un pur chef-d'œuvre. Et c'est sûrement le meilleur moyen pour vous de commencer ou de compléter votre collection contre le grand capital. Prix de départ, 300 000 euros.
400 000.
400 000. Alors, 500 000 à ma droite.
1 million.
1 million à ma gauche, attention.
3 millions.
3 millions.
4 millions.
4 millions à ma droite.
6 millions.
6 millions. 6 millions, qui dit mieux ?
10 millions.
Ça monte vite. 10 millions. 10 millions une fois.
15 millions.
15 millions. Une fois.
50 millions.
Nous avons un concurrent de Bernard Arnault ici. 50 millions une fois. Deux fois.
1 milliard.
1 milliard, très bien. On pourra refaire la fac comme ça. 1 milliard une fois. 1 milliard deux fois.
2 milliards. Monsieur Fillon, arrêtez.
2 milliards une fois. 3 fois. 2 fois, pardon. 3 fois. Adjugé pour 50 milliards, c'était ça? Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre participation. Pour les heureux nouveaux propriétaires, vous pourrez récupérer vos lots à la sortie directement.
Non mais, attendez, c'est pas un peu paradoxal tout ça? Vous avez vraiment compris de bord?
Comment ça? Mais bien sûr, on l'étudie depuis 2 semaines.
Mais enfin, vous prétendez lutter contre l'idéologie capitaliste et consumériste, contre la société du spectacle. Mais toute cette scène-là, c'est du pur spectacle. Et puis vous dénoncez le fait que la marchandise domine la société et qu'elle nous aliène. Mais cette vente aux enchères, vous nous l'imposez, non? Je veux dire, est-ce que quelqu'un ici a donné son accord pour assister à une vente aux enchères?
Non, mais justement, on utilise les procédés de la société marchande pour la dénoncer.
Mais il faut reconnaître que c'est un peu paradoxal. On a une artiste qui vient ici, qui présente ses œuvres, elle prétend être l'héritière du mouvement situationniste, révolutionnaire. Pourtant, ça se fait une marge énorme sur ses toiles.
Même que son projet n'est qu'un prétexte pour rendre son produit plus attrayant, un peu comme les casquettes à l'effigie du Che, comme si leur achat devenait un acte révolutionnaire.
Et quand bien même l'artiste souhaiterait sincèrement reprendre les théories de Debord, elle ne semble pas les avoir saisies. Je veux dire, on voit qu'elle ne va pas jusqu'au bout du projet. Debord prônait la destruction, l'idée de table rase. Il disait d'ailleurs, nous ne voulons pas travailler au spectacle de la fin du monde, mais à la fin du monde du spectacle. Or là, elle en reste au stade du détournement.
Mais finalement, nous aussi, on fait ça. Est-ce que le fait même de proposer des lectures de Debord, ce n'est pas déjà le mystifier? D'ailleurs, est-ce que toutes les formes qu'on propose ici sont cohérentes et ne vont pas à l'encontre des théories de Debord? Même dans un festival censé trouver des solutions alternatives à une consommation poussée à l'extrême, on soumet le public à des considérations commerciales et à des procédés spectaculaires à travers les formes choisies.
Leur donner des petites aides, mais vraiment, ils ont...
totale autonomie et vraiment un super résultat. Alors l'idée c'était aussi de discuter avec vous, avec eux, hein, donc peut-être vous pouvez vous asseoir si vous voulez par là, mais peut-être pas dans la salle parce que je pense qu'il y a, de quoi discuter. Donc la discussion est ouverte sur leur présentation, sur leur travail. Julien et Stéphane, vous pouvez venir là aussi, vous aurez peut-être aussi à intervenir si vous souhaitez. Voilà, je peux prendre un... Qui est-ce qui a un micro?
Il est là.
Il est allumé.
Ouais, je pense. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions, des envies de partager quelque chose après cette prestation?
Bon, bien évidemment, merci beaucoup. Parce que du coup, effectivement, il y a une mise en abîme de Bord et de sa société du spectacle et bravo pour ce travail. Du coup, moi j'avais quelques questions sur comment vous avez travaillé, notamment sur le texte. Enfin voilà, vous avez ce travail de lecture, vous êtes coltiné ce texte, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez aussi découvert ou réfléchi, à quoi ça vous a amené à réfléchir au-delà de la dénonciation de la société de consommation.
En fait, on a travaillé en classe, on a eu un premier temps où on a tous défriché un peu le bouquin en s'attardant sur des citations et en voyant ce que ça pouvait signifier avec d'autres exemples, d'autres textes. Et puis ben, après, on a tous réfléchi un peu à savoir comment est-ce qu'on voulait, on voulait en parler, les supports. D'abord, en fait, on a plus réfléchi aux supports qui nous intéressaient pour ensuite pouvoir dire ce qu'on avait à dire. Et c'est passé par différentes propositions. On a tous essayé de prendre quelque chose d'un peu différent pour parler de la consommation abusive d'art ou de publicité ou d'émissions de télé qui se transforment en spectacle. Donc oui, je pense que ça part vraiment directement d'un travail de lecture et de défrichage du texte en disant bah, tel mot veut dire ça, donc ça veut dire ça. Enfin voilà, je pense que c'est ça.
Non, oui, nous on a fait la même chose en fait. On est revenu à Debord et puis on a essayé ensemble de voir les choses qui nous parlaient encore, de comprendre les enjeux de la réflexion de Debord, parce que c'est pas du tout une lecture facile. Enfin, et donc on a fait ça ensemble en essayant de mettre l'accent sur ce qui nous attirait, sur ce qu'on pouvait actualiser. Et puis Julien a fait une deuxième partie où il a vraiment davantage mis en perspective avec d'autres auteurs.
Oui, moi du coup j'ai fait l'idée c'était de travailler sur, d'habitude on a souvent tendance à envisager la façon dont le discours politique se nourrit du discours publicitaire, là c'était de faire l'inverse, c'est la façon dont le discours publicitaire récupère le discours politique avec toutes les campagnes de pub, Intermarché, etc. qui récupèrent l'iconographie, mai 68 et donc les enjeux qu'il y avait tout ça, et puis on a évoqué un peu Roland Gori, Michel Foucault, voilà, histoire de le recontextualiser un peu et de voir comment on pouvait adapter et Baudrillard aussi pour la société de consommation.
Peut-être ajouter sur la façon dont ça s'est passé que effectivement, comme tu l'as dit au départ, on est vraiment parti chaque groupe, il y a des groupes qui se sont formés et chaque groupe a essayé de réfléchir au dispositif, au format qu'il voulait présenter. Donc assez vite, on est sur une génération qui très très vite est partie sur de la vidéo, donc le zapping est venu assez vite, le détournement ils ont en lettres, je le dis parce qu'il y a plein de départements qui devraient s'inspirer de ce qui se passe en lettres à Poitiers, et ils ont un cours avec Jean-Charles Macérat qui les a aidés sur les détournements. Donc Jean-Charles Macérat qui est un écrivain, on l'avait reçu à Raison d'agir, mais qui est aussi un artiste qui propose des formats, des dispositifs qui se veulent quoi,
décalés, on va dire, on va faire vite. Bah, voilà, ils ont eu ces aides-là. Et assez vite, en fait, donc ils nous ont proposé des projets. Tous les projets ont été acceptés parce que tous étaient vraiment intéressants par rapport à la réflexion de Debord. Après, quand on a eu deux ou trois séances où ils ont présenté un début de produit fini. Et là, en fait, c'est peut-être là qu'on a été le poil à gratter. Et ils ont pris ça très, très bien. Donc c'est chouette, mais on a été le poil à gratter pour essayer de leur montrer en quoi, par exemple, je reprends l'exemple du zapping, hein, mais c'est vrai pour toutes les autres formats, les autres dispositifs. Sur le zapping, au départ c'était un peu qu'un zapping, et puis on a mis le doigt sur le fait que présenter un zapping, c'était pas forcément montrer quelque chose de Debord, de la réflexion de Debord et tout. Donc voilà, on a été un peu le poil à gratter. Et c'est ce qui se retrouve dans la fin de la présentation sur le côté paradoxe, parce que c'est vrai qu'on s'est très vite posé la question. On parle de la société du spectacle, on veut dénoncer le spectacle, mais on est en train de faire du spectacle. Donc comment on fait ? Et on n'en est pas sorti. C'est ce que dit très bien Monsieur et Madame Loyal à la fin. On n'en est pas sorti et on a tout à fait conscience. Ils ont tout à fait conscience de pas en être sortis. Mais bon, après, au-delà de Debord, et encore une fois, allez voir ce qui se passe au département de lettres. Je pense que c'est vraiment c'est aussi une expérience avec plein de guillemets pédagogiques qui a pour objet aussi, et c'est très utile je trouve sur un texte aussi difficile que Debord, de s'approprier ses pensées complexes autrement. Pas simplement avec un cours magistral, pas simplement avec un examen de fin de semestre. Donc il faut savoir que là ils ont joué leur oral puisqu'ils auront une note collective. Donc ça aussi dans le système universitaire, faire passer la note collective à l'oral, c'est un petit décalage quand même. Et voilà, c'est aussi une forme. Alors peut-être que ils n'ont pas plus ou moins, c'est pas la question, plus ou moins appris qu'avec un cours magistral, mais ils ont appris autrement. Et je ne peux pas trop parler pour cette année parce que vraiment je ne vous ai pas vu beaucoup, mais je sais que sur les années précédentes, j'avais vraiment le sentiment que voilà, il y avait eu une appropriation réelle par le fait de casser les codes. Bon, par exemple, cette année, on n'a pas eu le temps, c'est très dommage, mais on n'a ni eu le temps, ni vous aviez des problèmes d'emploi du temps, on n'a pas pu sortir de l'université. Mais les deux autres années où j'avais fait ça, le principe, c'est que très, très vite, on a fait nos cours à Mendès France, dans la rue, devant la cathédrale. Et ça aussi, rien que ça, c'est idiot. Enfin, ça paraît idiot, mais c'est énorme. Dans les années 70, quand on allait faire cours sur le campus, c'était pas pour rien. C'est qu'on casse des codes aussi. Et surtout dans cette génération qui n'a pas l'habitude, qui est hyper formatée et à qui on a dit « va en cours et tais-toi ». Et t'auras tes examens, je crois que ça permet une appropriation différente. Elle n'est peut-être pas meilleure, mais elle est différente. Et en tout cas, c'est une vraie appropriation. Bon, voilà. Enfin, c'est ce que je pense. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de... Ouais.
Merci beaucoup pour votre présentation. C'est très drôle et bienvenue. Et je me demandais si, au-delà de votre cercle ici... dans les coulisses de l'université, dans vos interactions avec les enseignants, avec d'autres étudiants qui ne sont pas là aujourd'hui, ce genre de déconstruction, de réflexion, d'interrogation, ça pouvait ponctuer vos discussions, si ça se diffusait, ce genre de questionnement, voilà, ou si on avait affaire là à un tout petit cercle qui s'interroge sur les questions de consommation et du système capitaliste plus généralement.
Bonjour. Avant, finalement, pas forcément, mais c'est vrai que le fait d'avoir travaillé dessus, ça permet de s'engager et de pas seulement avoir un cours où effectivement on reçoit l'enseignement et à côté de ça on fait rien. Là, le fait de créer quelque chose, ça permet aussi de se rendre compte aussi dans la vie quotidienne, là où forcément quand on va en cours, après on en sort et on met pas forcément en pratique ce qu'on a vu, alors que là, le fait d'avoir créé nous-mêmes, ça nous fait vraiment réfléchir. Et moi, je sais que depuis qu'on a fait cet exercice, j'ai beaucoup plus pensé et je m'interroge beaucoup plus sur les choses. Non, mais c'est vrai. Arrêtez de vous moquer de moi. Et donc, ça permet aussi la discussion autour de nous avec mes frères. Vous moquez de moi. Et en fait, c'est vraiment avec cette approche-là que ça nous fait vraiment réfléchir sur ces questions-là, plus que d'avoir un enseignant qui nous dit son cours et on le note simplement. Le texte de Debord était aussi très compliqué. Et juste à la lecture, je sais que moi, j'en ai pas forcément compris les enjeux, mais c'est en essayant de faire quelque chose et faire ce zapping derrière que ça a pris du sens. Voilà. Je sais pas si quelqu'un veut dire.
Bonjour. Moi, je pense que c'est aussi propre aux études de lettres, en fait,
de Poitiers.
d'essayer de tout remettre en question un peu et de défricher un peu tout pour essayer de se construire une pensée indépendante.
Comment vous êtes tombé sur le livre de Debord? C'était à l'initiative de vous, de votre enseignante. Comment vous avez commencé à vous lancer sur Debord? Est-ce que vous avez essayé de lire un peu autre chose? La misère en milieu étudiant, ça vous dit quelque chose? Qui s'adresserait directement à vous, de la misère en milieu étudiant, qui avait été écrit à l'époque avant 68, 66, et qui avait eu une certaine influence sur le mouvement qu'il y avait eu à l'époque, et les autres textes, Van Game, enfin, l'histoire du mouvement situationniste, enfin, on peut trouver facilement beaucoup de choses.
Je réponds, mais je te donne la parole après si tu veux. Le choix du texte de Debord, donc on avait décidé donc de se relancer dans l'aventure avec Stéphane et du coup Julien cette année. Et puis sur la consommation, très vite entre nous, comme on voulait qu'il y ait aussi un travail sur du texte, hein, il y a quand même aussi un apprentissage et ils vont quand même avoir un examen écrit. Enfin bon, voilà, il fallait quand même qu'ils aient appris des choses. Et puis Stéphane avait travaillé sur la Société du spectacle. Nous, dans À raison d'agir, on avait parlé de la Société du spectacle pour cette édition sur la consommation. Donc on s'est lancé là-dessus. Et oui, là, c'est plutôt à Stéphane que je vais laisser la parole. Ta partie de cours à toi, ça a été justement de leur présenter l'international situationniste et les situationnistes et le travaux de, des travaux de certains d'eux.
Deux choses. Bon, il ne faut pas se fier aux apparences, mais on vit dans une société qui est très axée sur le visuel. Je vous ai compté 14. Je préfère 14 que 13, il paraît que c'est mieux. Et sur 14, il y en a 7 à peu près qui sont en jean, et donc que 7. Et il n'y en a aucune qui est, ou aucun qui est avec un jean déchiré avec des gros trous aux genoux, etc. Donc il me semble que vous n'êtes pas trop influencé par la mode et la consommation. Mais voilà. Non, il n'y a pas de costume, il n'y a pas... Voilà. Donc, deuxième chose, moi je suis arrivé que pour le débat, j'ai loupé complètement le spectacle. Je viens de demander à Philippe, le monsieur technicien de l'espace Mendès France dans la Guérite derrière là, qui me dit que non, ce ne sera pas accessible sur le site internet de Mendès France, mais que les profs vont l'avoir. Et je me dis, alors, à voir avec Philippe, mais... Pour peut-être plaider pour d'autres démarches éducatives, pédagogiques, universitaires, ça vaudrait peut-être le coup que ça soit accessible à d'autres profs pour montrer que c'est possible. Et même pour nous et moi, pas frustrés, mais presque, de pouvoir le voir en différé, en regardant bien s'il n'y a vraiment pas de trous dans les jeans.
En fait, on voulait vous interroger sur les deux vidéos de Jean qui marchait, qu'on a diffusées. Et en fait, on voulait savoir ce que vous en aviez compris. D'accord. Et du coup, on va la diffuser.
Donc normalement, il s'agit d'une seule scène que j'ai découpée en deux et que j'ai entrecoupée de petites images que j'ai vraiment essayé de réduire au maximum. Et donc il y a
deux images. Une partie, c'est des images représentant par exemple l'ancienne McDo, d'autres anciennes comme ça, de biens de consommation. Et l'autre partie, ce sont des images de gens complètement pas atteints, mais rendus fous par des achats frénétiques. Voilà. Et je voulais montrer ça. Enfin, au départ, montrer vraiment une scène normale avec tout ça caché, parce qu'on est, enfin, on vit quand même dans une société où bien consumériste, et on s'en rend plus compte, en fait. On est tous chacun dans son petit monde et on se rend pas compte qu'on est complètement lobotomisé par la consommation, et c'est ça que je voulais montrer. Des gens anonymes, inconnus qui passent, et autour d'eux des invitations à consommer, à acheter, à acheter, à acheter toujours plus.
Non, ça marche plus. Si, on voulait remercier Monsieur Bicchialo, Monsieur Rowe et vous, Véronique, aussi, de nous avoir permis de pouvoir rentrer dans un texte comme ça qu'on n'aurait peut-être pas forcément lu sans ce cours. Donc voilà, merci.
Donc, on fait une petite pause, on reprend à 15h30 pour la dernière table ronde du festival consacrée aux alternatives de consommation avec plusieurs intervenants, donc à partir de 15h30. Et pour celles et ceux qui pourraient pas rester à la dernière table ronde, on vous rappelle que le festival va se terminer ce soir au Plan B à 21h avec un one-man show de Yves Cusset. Je pense qu'on va pouvoir rigoler un peu plus que pendant ces 3 jours où on a entendu des choses pas très drôles quand même. À tout à l'heure.